Place Info.
Aujourd'hui, la condamnation unanime de la classe politique. Condamnation des propos de l'humiliation d'une maman voilée par un élu du Rassemblement National de Bourgogne-Franche-Comté. La laïcité, toujours cette épine dans le pied du gouvernement. Faut-il interdire le voile pour les accompagnatrices scolaires? Il y a débat au sein même de l'exécutif, reconnaît la porte-parole du gouvernement. Pourquoi cette question gêne-t-elle autant la Macronie? Pourquoi le président n'a jamais prononcé ce discours maintes fois annoncé sur la laïcité? Nous poserons la question et nous reviendrons sur l'élection à la tête des Républicains, la droite qui se choisit un nouveau chef et la Tunisie qui se choisit un nouveau président. Les enjeux, les résultats, les questions, les réponses avec vous, François Hernenwein, éditorialiste et rédacteur en chef à La Croix. Bonsoir.
Bonsoir.
Anne Bourse, journaliste au service politique de France Télévisions. Alexia Germont, présidente du think tank France Audacieuse et du mouvement politique Nous Citoyens. Bonsoir.
Bonsoir.
Stéphanie Antoine, journaliste présentatrice à France 24. Vous présentez notamment la semaine de l'écho, pour ne citer qu'une seule des émissions.
20h à 22h en semaine. Les news de 20h à 22h en semaine.
Voilà, et une émission sur l'international le week-end, un samedi sur deux.
Le monde dans tous ses états, c'est France Info et France 24.
Eh bien, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la télé, canal 27 de la TNT. La laïcité, donc, une fois de plus au cœur des débats. Un élu du Rassemblement National s'en est pris vendredi à une maman voilée qui accompagnait des écoliers à une séance du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Condamnation du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. C'était idiot, dit-il. Mais ce n'est pas ce commentaire qui fait ce soir polémique. Écoutez.
Il est tout à fait normal d'avoir un dialogue avec les parents d'élèves, d'expliquer à une maman qu'on préfère qu'elle ne mette pas le voile dans une sortie, mais après, elle en a le droit.
Pourquoi vous préférez qu'elle ne le mette pas?
Mais parce que le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. C'est pas quelque chose à encourager, c'est pas quelque chose d'interdit, mais c'est pas non plus quelque chose à encourager. Ce que ça dit sur la condition féminine, ce que ça dit n'est pas conforme à nos valeurs, tout simplement.
Et parmi les réactions politiques indignées, celle du porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou. Un ministre, dit-il, je vous lis ses propos, hein, en flagrant délit d'atteinte à la laïcité, soufflant sur les braises de l'islamophobie. Ce gouvernement n'est pas un rempart contre l'extrême droite, mais lui sert de marchepied. Il va loin, Julien Bayou, François Hernenwein, éditorialiste et rédacteur en chef à La Croix. Est-ce qu'il a raison d'aller aussi loin ou est-ce que c'est le ministre qui a raison dans ses propos?
Non, mais là, il en rajoute une couche. Je ne sais pas si ça contribuera à apaiser le débat. C'est une question très complexe. Et on voit bien que dans la position du ministre de l'Éducation nationale, il joue entre le droit, il réaffirme le droit de la maman à porter ce voile, et puis ses souhaits personnels. Or, les souhaits d'un ministre, aussi importants soient-ils, c'est pas eux qui disent le droit. Le droit, elle avait le droit de porter ce voile, et qu'il ne le souhaite pas, c'est son opinion personnelle. Il faut rappeler que c'est l'État qui est laïque en France, mais dans l'espace public, il y a la manifestation d'appartenance religieuse, des signes religieux partout dans l'espace public. Et si on veut éradiquer ça, bonjour.
Alexia Germont, du think tank la France Audacieuse, quand
France
il dit... France Audacieuse, pardon.
Vous avez dit la France Audacieuse, et ça c'est le mouvement politique de Christian Estrosi qui nous a piqué le nom un an après.
Et du mouvement politique, nous citoyens,
Alexia.
C'était fait.
Alexia Germont, petite question, pour revenir sur le débat, Jean-Michel Blanquer, il dit « la loi n'interdit pas, je ne souhaite pas, mais je ne légifère pas, est-ce que c'est une position audible ?»
En tout cas, c'est une position qu'on a déjà entendue il y a quelques mois, quand il y a eu le dépôt devant le Parlement de la loi sur l'école, où ça faisait partie des amendements qui étaient proposés, qui n'ont pas été retenus. On a eu le débat au niveau de l'Assemblée nationale, on a eu le débat au niveau du Sénat. Donc on voit bien, en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut arriver à parler de ce sujet sans hystériser le débat. Bon, et ce qu'on a vu hier, qui est totalement inconcevable de la part du RN, puisqu'en fait il se sert de la laïcité finalement pour quelque part mieux l'utiliser à des fins politiques, ce qui est inacceptable. Et c'est normal d'ailleurs, même le Rassemblement National, on voit bien, rétropédale, voyant bien que c'est une position qui est intenable. Cela dit, la question se pose, elle se pose surtout dans un contexte qui me paraît très important et qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a pas moins d'une quinzaine de jours, il faut se rappeler que la FCPE, la Fédération donc des parents d'élèves, avait fait une affiche qui avait provoqué un sacré tollé, et pour cause, parce que la FCPE s'était quand même en 47 lancée vraiment sur des valeurs très appuyées de laïcité, et aujourd'hui...
Une affiche sur laquelle on voyait une mère
voilée. Une mère de famille, disant avec un slogan qui était quand même assez, pour le coup, assez agressif, en disant « oui, je mets le voile pour les sorties ». Et alors, le « et alors » venant ponctuer quand même une idée qui n'était pas forcément de la sérénité.
Et Jean-Michel Blanquer, à l'époque, d'ailleurs, s'était indigné face à cette affiche. Mais question tout de même, Anne Bourse, à la journaliste politique. Quand Jean-Michel Blanquer se dit, voilà, pas forcément à l'aise avec les mères qui accompagnent les enfants qui portent le voile, et que Sibeth Ndiaye, de l'autre côté, dit, sur France 3 d'ailleurs, sur votre plateau, je n'ai pas de difficulté à ce qu'une femme voilée participe à une sortie scolaire. Qu'est-ce que ça dit, en fait? On n'a pas tous la même définition de la laïcité au sein du gouvernement.
Pourtant, la loi est très claire sur la... La loi est extrêmement claire. Donc, tout le monde est censé, doit avoir la même définition. Là, effectivement, Jean-Michel Blanquer se montre extrêmement ferme, en plus, hein, parce qu'il va bien au-delà de l'école. Il dit que ce n'est pas souhaitable dans la société. Donc, effectivement, il donne un avis personnel qui n'est certainement pas la ligne du gouvernement. Et après, effectivement, le gouvernement, là, tous les deux, ils affichent deux voies complètement différentes. Le fameux en même temps, mais qui va être très très difficile à tenir sur un tel sujet. Donc de toute façon, il y aura forcément une prise de position à un moment, soit du Premier ministre, soit du Président de la République. Mais là, on voit bien qu'il y a deux voies qui ne sont absolument pas compatibles au sein même du gouvernement.
Le Président de la République, il devait prononcer en début d'année.
Il ne l'a jamais fait pour l'instant.
Il n'a jamais fait. Stéphanie Antoine, sur cette question de la laïcité, Macron doit parler.
Oui, il devrait parler, hein, c'est ça, on l'attend
ça
toujours.
Fait un an qu'on nous dit.
C'était pas le premier des dossiers, justement, c'était pas le dossier en haut de la pile, si je puis dire, et maintenant, ça va devenir effectivement une des priorités. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir cette semaine, la façon, son discours, en fait, au début de semaine, était quand même beaucoup plus dur à l'égard de... Il a parlé de l'hydre islamiste, ce qu'il avait tout de même jamais fait auparavant, Emmanuel Macron, donc on sent que ce sont des thèmes qu'il va aborder, mais c'est vrai que là où je vous rejoins, c'est que sa majorité est très divisée sur ces sujets.
Et nous continuerons à débattre juste après le rappel de l'information. 20h10 sur France Info. Stephen Goyer nous a rejoint.
L'armée syrienne mobilisée contre l'offensive turque. D'après un média d'État syrien, des troupes vont être envoyées au nord du pays pour faire face à l'assaut lancé depuis mercredi par Ankara contre les Kurdes syriens. En France, un conseil de défense restreint est organisé à 22h pour faire le point sur la situation. L'attaque turque risque de créer une situation humanitaire insoutenable et d'aider le groupe État islamique à réémerger, a déclaré tout à l'heure le président de la République, Emmanuel Macron. Vote électronique terminé depuis 10 minutes pour les militants Les Républicains après 24 heures pour désigner le nouveau chef du parti entre Julien Aubert, Christian Jacob et Guillaume Larrivé. Nous vous tiendrons informés des estimations dans nos prochaines éditions. Nouvelle action spectaculaire d'Extinction Rébellion. Un militant a grimpé cet après-midi sur la pyramide du Louvre à Paris avant de planter un drapeau. Les policiers l'attendaient en bas de l'édifice mais ne l'ont pas interpellé. Action toujours dans le cadre de la Semaine mondiale de désobéissance civile pour réclamer des mesures contre le réchauffement climatique. Le bilan s'alourdit après le passage du typhon Agibis. 26 personnes ont trouvé la mort au Japon, certains ensevelis dans des glissements de terrain. Des pluies d'une intensité record qui ont frappé le centre et l'est du pays depuis hier. Plus de 100 000 secouristes restent mobilisés pour venir en aide aux victimes. Et puis le Stade français s'offre une victoire de rang en top 14. Les Parisiens se sont défaits de Toulon tout à l'heure, 33-10. À 20h50, tout à l'heure, Clermont se déplace sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles en clôture de la 7e journée.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Neil Alatrousse.
Et après l'indignation, l'embarras, celui du Rassemblement National qui désavoue l'un de ses élus de Bourgogne-Franche-Comté. Il s'en était pris vendredi soir à une mère voilée qui accompagnait un groupe d'écoliers au conseil régional.
Je pense que, je vous dis, c'est une maladresse. Je pense que c'est des propos qui étaient malvenus, qui étaient... Je pense pas que je sois soupçonnable de la moindre faiblesse à l'égard du communautarisme ou des revendications politico-religieuses en France. Et je pense qu'il faut combattre cela. Mais en revanche, nous devons assortir cette fermeté du respect de la dignité de chacun.
Et là, je parle du respect de la loi.
Je parle un peu comme père de famille. Mettre en cause une femme à côté de son enfant en bas âge, je pense que c'est une maladresse, que c'est malvenu.
On vient d'entendre Nicolas Bay, député européen du Rassemblement National et jusqu'il y a peu vice-président du parti, Anne Bourse de France Télévisions, journaliste politique. On sent de la gêne dans son propos. Quand même.
Oui, il y a un rétropédalage complet du Rassemblement National là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ne suivent pas, ils ne vont pas aussi loin. Ils se rendent bien compte que là, de toute façon, c'est une erreur de leur élu de Bourgogne d'être allé aussi loin. Il n'y avait même pas à discuter. Encore une fois, on était complètement dans le cadre de la loi. Donc, de toute façon, il n'y avait pas... L'élu a fait, comme on dit si bien, un buzz médiatique en mettant tout de suite sur les réseaux sociaux. Et les instances du Rassemblement national se rendent bien compte que ça va, c'est allé beaucoup trop loin. Donc rétropédale complètement, ils ne le soutiennent pas, on vient de l'entendre.
Alexia Germont de France Audacieuse, hein, je le dis bien, du think tank France Audacieuse. Il gêne, il contrecarre la stratégie du Rassemblement national, cet élu, à travers cette vidéo. On avait le sentiment que le parti, et notamment à l'approche des municipales, essayait d'aller encore plus loin dans la dédiabolisation.
Oui, ce qui est gênant et ce qui doit certainement justement beaucoup gêner le Rassemblement National, c'est qu'il y avait une mise en scène qui avait quand même été bien orchestrée. C'est-à-dire que quand il y a la vidéo qui est prise avec le bon cadrage en filmant sur la mère de famille, c'est ça qui...
Il cherchait l'incident.
Bon, dans une séance qui manifestement a été extrêmement perturbée, y compris aux abords après du Cénacle. Donc tout ça fait que de toute façon le Rassemblement National n'avait pas d'autre choix que de rétro-pédaler, et là encore on facilite la tâche parce que finalement on voit bien que Marine Le Pen n'a même pas besoin d'aller sur ce terrain-là. Elle envoie ses lieutenants donner les éléments de langage et le gouvernement et l'exécutif de lui-même a du mal à aller sur ces questions-là, et donc on voit bien le panel finalement d'opinion qui sera extrêmement divers dans l'exécutif. Et c'est ça qui rend difficile, alors qu'il y a un vrai sujet sur lequel il faut avoir le courage de poser...
Qui est le sujet de fond, qui est...
Ben, le sujet de fond, c'est de savoir ce qui est aujourd'hui et ce qu'il y a besoin ou pas de bouger. C'est pour ça qu'on attend la prise de parole du président. Qu'est-ce qu'il compte faire avec la loi de 1905, dont beaucoup de défenseurs de la laïcité disent qu'il ne faut absolument pas la bouger. Cela dit, on est dans un contexte quand même aujourd'hui où tout le monde, on peut plus parler de naïveté, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a un côté d'entrisme politique d'une certaine partie de l'islam, et que ça, c'est un sujet et qu'il faut savoir...
Vous évoquez la partie islam politique ?
Sur l'islam politique, bien sûr, sur l'islam politique. Et ça fait partie des trois points, d'ailleurs, qui étaient dans la tribune de Xavier Bertrand aujourd'hui, qui pour des raisons...
Qui évoque notamment les listes communautaires...
Qui évoque les listes communautaristes, qui pourraient être, à ce moment-là, interdites par le biais d'une modification de la Constitution, pour rappeler, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et je pense que dans le contexte actuel, c'est important pour rappeler que les partis politiques doivent respecter le principe de laïcité.
Stéphanie Antoine,
c'est vrai qu'il est allé très loin, Xavier Bertrand, hein, dans son offensive aujourd'hui dans le JDD, puisqu'il propose clairement d'interdire ces partis communautaristes. Il l'avait déjà dit d'ailleurs lors d'une émission sur France Télévisions. Ça veut dire une modification de la Constitution tout de même, sur l'article 4, sur la constitution des partis politiques. Donc, mais c'est une idée qui peut être débattue, celle-là. En l'occurrence, c'est quelque chose de concret. On peut être d'accord ou pas, mais c'est une idée qui peut être débattue.
Quand vous dites celle-là, c'est comparé à, par exemple, d'autres textes, à la loi de 1905 qu'évoquait...
La loi de 1905, d'après ce que j'avais compris, moi, Emmanuel Macron voulait plus toucher,
parce qu'il a bien vu que c'était...
C'est un peu un totem, on ne touche pas à la loi de 1905. En revanche, les partis, c'est autre chose, parce qu'une modification de la Constitution, même si elle est compliquée à obtenir, ça peut être, disons, quelque chose qu'on peut mettre sur la table, en tout cas.
Et il y a le financement. Et le vrai sujet sur lequel on attend aussi le président de la République, c'est le mode de financement de l'islam de France, et notamment là-dessus aussi Xavier Bertrand préempte le sujet en disant qu'il faut...
On va revenir sur Xavier Bertrand dans quelques instants, lorsque nous évoquerons notamment la question des Républicains. François Hernenwein, sur cette question d'Emmanuel Macron et de ce discours sur la laïcité qui effectivement n'a jamais été prononcé, de la réforme de l'organisation de l'islam qu'il souhaitait également engager... Il y a eu des réunions et puis rien. C'est l'angle mort, en fait, du macronisme.
C'est pas l'angle mort, mais on voit bien à travers notre conversation, nos échanges, que c'est une question extrêmement complexe. Comment, si la destruction créatrice doit intervenir sur cette question-là, il vaut mieux avoir des propositions solides à proposer. Or, je constate que sur ces questions, Il y a beaucoup de monsieur plus dans les interventions publiques, je pense à Xavier Bertrand précisément, qui reproche au chef de l'État de ne pas avoir vu l'ampleur de la menace islamiste. Enfin, tout ça est un peu ridicule. Il y a un défi qui est posé par l'islam politique. Les réponses doivent être appropriées, mais pas au mépris du droit, du respect de la loi de 1905. D'ailleurs, je voudrais rappeler que la loi de 1905, qu'on appelle loi de 1905, c'est une jurisprudence abondante tout au long du XXe siècle, une formidable capacité d'adaptation aux situations nouvelles créées, et avec intelligence, la loi de Bray, les carrés musulmans, etc. C'est plein de choses qui viennent de la loi de 1905, et là, se sont passées des choses intelligentes. Je recommanderais, sur cette question de l'islam politique, et de la lutte contre l'islam politique, d'envisager d'avancer raisonnablement et en respectant le droit et en n'allant pas dans cette hystérisation et cette surenchère de la radicalité des mesures à opposer aux radicaux. Parce que le débat devient intenable sur cette question. Il y a des individus du droit, appliquons le droit.
L'hystérisation, Alexia Germont, est-ce qu'elle ne conduit pas, moi j'ai ce sentiment hein, quand je lis les interviews des uns et des autres, à confondre tous les concepts. Hein, radicalisation, communautarisme, extrémisme, pratiques religieuses, foi, terrorisme. Est-ce que on est aujourd'hui également dans un mélange de tous les concepts qui permet joyeusement, si je reprends ce que dit François Ehrenweil, hein, de dire tout et n'importe quoi.
C'est vrai que c'est une question qui est, on touche là au cœur vraiment de cette invention française avec le principe de laïcité à laquelle on est tous extrêmement attachés, qui nous permet quand même, depuis 1905, avec la conjonction du droit et de la jurisprudence déclinée, de bien vivre ensemble. La difficulté à laquelle on est arrivé aujourd'hui, c'est que je crois que la responsabilité collective que nous avons, c'est que pendant très longtemps, toutes ces questions-là, c'est comme les questions d'écologie qui ne sont réservées qu'aux Verts, les questions touchant à la laïcité, à l'islam politique, ont été laissées vraiment au Rassemblement national, avec le résultat que l'on voit. Donc, il est de la responsabilité, et je pense de ce point de vue-là, que les think tanks ou que les laboratoires d'idées sont peut-être, ça permet d'aborder la question de façon plus apaisée que dans le cadre d'un parti politique. Parce que justement, même quand on n'est pas d'accord, au moins les différents points de vue peuvent s'exprimer, ils sont argumentés, et je crois que c'est la responsabilité aujourd'hui de tous ceux qui interviennent dans le débat public par le biais des idées, de devoir aussi s'approprier cette question-là, en faisant ce que vous disiez, c'est-à-dire une pédagogie totale de ces différents points, pour pouvoir mieux éclairer le débat derrière.
Et dans quelques minutes, je demanderai à Stéphanie Antoine de nous éclairer sur comment ça se passe dans les autres pays, 20h et 20 minutes, sur France Info, toute l'information avec Steven Goyer.
Paris et Berlin haussent le ton contre l'offensive turque. Emmanuel Macron et Angela Merkel appellent ensemble la Turquie à cesser son opération contre les Kurdes de Syrie. Un assaut qui risque de créer une situation humanitaire insoutenable et d'aider Daesh à réémerger, a déclaré le président de la République. Un conseil restreint de défense se réunira par ailleurs à 22h pour suivre l'évolution de la situation dans le nord-est du pays. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, s'est exprimé aujourd'hui sur la question. Ceux qui pensent pouvoir nous contraindre à reculer avec ces menaces se trompent. L'armée turque poursuit son attaque. Elle a aujourd'hui mis la main sur la ville frontalière de Tal Abyad. 900 euros par mois au lieu de 860, l'allocation adulte handicapé sera bien revalorisée le 1er novembre prochain. L'allocation bénéficie à plus d'un million de personnes de plus de 20 ans qui ne sont pas encore à la retraite. Et puis une marche blanche à Villiers-le-Bel en souvenir d'Ibrahima, ce jeune motard décédé il y a une semaine dans des circonstances floues pour l'instant près d'un contrôle de police. 300 personnes ont défilé d'après la police aux côtés d'une poignée d'élus de la commune. Nous allons marcher et exiger la justice, a notamment expliqué son frère au départ du cortège. Mercedes décroche son 6e titre constructeur consécutif grâce aux résultats sur le Grand Prix du Japon. À 4 manches de la fin de la saison, l'écurie allemande ne peut plus être rejointe par ses adversaires. Mercedes s'octroie même le luxe d'un doublé avec le 6e titre pilote. Avec la victoire de Valtteri Bottas, le Finlandais disputera le titre final avec son coéquipier Lewis Hamilton.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neïla Latrousse.
Et après la polémique, après l'expulsion, ou en tout cas après l'humiliation d'une mère voilée qui accompagnait un groupe d'écoliers au conseil régional, la question de la laïcité s'invite de nouveau dans le débat public. Question à Stéphanie Antoine de France 24. Est-ce qu'il y a une spécificité française en la matière ou est-ce que c'est un débat qui traverse d'autres pays en Europe, dans le monde ?
Il y a clairement une spécificité française, hein, la laïcité, la loi de 1905, c'est la France. Si vous vous baladez n'importe où à Londres, il y a des femmes voilées, et les Britanniques, ça ne les gêne pas, en fait. Il y a les élus sont voilés, enfin, aux États-Unis, vous voyez la même chose, il y a des parlementaires voilés. Donc cette question du voile est effectivement une spécificité française. La loi 1905, c'est la laïcité française, ça fait partie de la République française. Moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer à tous mes amis américains qui souvent ne comprennent pas qu'on s'en prenne effectivement aux femmes voilées, même à la sortie des écoles. Mais cette spécificité française est importante. Effectivement, ça entraîne un certain embarras pour pouvoir régler cette question qui, comme on l'a dit, est extrêmement complexe. Mais bon, vous ne la trouvez pas, par exemple, dans les pays dits plus communautaristes comme le Royaume-Uni. Après, sur le positionnement sur ces sujets dans l'ensemble de l'Europe, il y a des difficultés à droite, parce que vous voyez bien que dans les formations de centre-droit, eh bien, ils sont dépassés un petit peu par l'extrême droite, que ce soit par exemple en Allemagne. L'AFD utilise ces sujets-là, que ce soit l'islamisme, que ce soit l'immigration. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un positionnement du centre-droit, de la CDU, qui justement va essayer de virer un peu plus à droite pour aussi attaquer ce type de sujet. Donc c'est délicat. Vous retrouvez en fait cette problématique de ces sujets qui ont été accaparés par l'extrême droite, une extrême droite qui a monté dans l'ensemble de l'Europe, que ce soit en Allemagne ou en Espagne. Et aujourd'hui, la droite eh bien, se dit, il faut que je récupère ces sujets, le centre-droit. Mais en ce qui concerne, je dirais, la question du voile, c'est une spécificité française. Et la laïcité, c'est quelque chose de français.
Une transition parfaite, puisque vous évoquez la droite. On va aller regarder comment les choses se passent. Du côté des Républicains, les bureaux de vote électronique, hein, puisque c'était un vote pas physique, ont fermé il y a une vingtaine de minutes, à 20h précisément, à 17h, plus de 40% des adhérents avaient voté, s'étaient exprimés, amenés à se choisir un nouveau président. L'un d'eux n'a pas voté, c'est Jean-Pierre Raffarin. Alors non seulement l'ancien Premier ministre n'a pas renouvelé son adhésion au parti, mais il a même annoncé qu'il le quittait aujourd'hui.
Je n'ai pas renouvelé ma cotisation, et donc quand on ne renouvelle pas sa cotisation, on reste dans le parti pendant
Donc vous n'y êtes plus. Donc vous n'êtes plus républicain.
Je vais partir des Républicains, évidemment. Deux sujets qui sont très importants pour moi. Je vais vous parler des problèmes de société. Là, c'est vrai que sur les problèmes de société, par exemple, pour moi, la référence parentale, la référence paternelle est quelque chose de très important. Je voudrais qu'on puisse en parler. Moi, je suis prêt à parler avec les Républicains, avec Libre, avec Xavier Bertrand, avec tous ceux qui sont dans cet espace politique. Nous sommes dans le même espace politique, disons l'espace politique de l'UMP.
Est-ce que vous allez rejoindre
un autre
Jean-Pierre Raffarin? Est-ce
non,
que ça veut dire que
non, non,
vous resterez
quitté,
totalement indépendant?
Quitté,
donc,
ça
ne serait
vous a
pas
échappé, j'ai quitté la politique partisane, c'est pas pour y retomber.
Anne Bourse, journaliste politique chez France Télé. C'était attendu, Jean-Pierre Raffarin qui quitte oui. Les Républicains. Pas vraiment une surprise, mais tout de même, ça pose une question de fond. Comment on redevient une force d'attraction quand on engendre plus de départs que d'arrivées ?
Bah déjà, il faudrait avoir un programme, savoir où vont les Républicains aujourd'hui. Je pense que, certes, ils se cherchent un chef, un leader, mais au-delà de ça, c'est pour faire quoi ? Quelle ligne ont les Républicains aujourd'hui ? Je crois que personne n'est capable de le dire. On voit bien que En Marche a pris toute une partie du centre droit. Les militants qui restent, ce sont quand même les plus radicaux hein, chez les Républicains, avec quand même moins 100 000 adhérents en 2 ans. C'est absolument énorme. Quand même. Et donc, quel programme ? Où vont les Républicains ? Et ça, pour l'instant, on n'y voit pas grand-chose parmi les 3 candidats qui briguent le poste de président de LR. Et tant qu'ils n'auront pas défini leur ligne, ce qu'ils veulent, comment ils se positionnent par rapport au Rassemblement national, par rapport à En Marche, ils ne susciteront certainement pas d'envie chez les gens.
François Hollenwein, justement, c'est la question qui se pose, qui est le plus dangereux aujourd'hui pour les Républicains ? Est-ce que c'est Emmanuel Macron au centre droit ou est-ce que c'est Marion Maréchal ou Marine Le Pen à l'extrême droite ?
Ça dépend de quel Républicain on parle. Évidemment, il y a une scission à l'intérieur même des Républicains sur des polarités d'un côté vers le Rassemblement national, de l'autre vers La République En Marche. Mais ces pôles d'attraction extérieurs aux Républicains fonctionnent parfaitement. Anne Bourse vient de citer... Les 100 000 adhérents perdus, ils sont pas partis n'importe où.
On l'a vu aux élections européennes. Enfin, je veux dire,
ils se sont répartis sur l'échiquier politique. Ce qui est intéressant maintenant, et l'élection du nouveau président va permettre peut-être d'y voir un peu plus clair, au fond, le point auquel on est arrivé, c'est que la droitisation des Républicains, parfaitement incarnée par Laurent Wauquiez, a conduit à une impasse. Donc aujourd'hui, c'est la recomposition de ce parti, et recomposition, ça veut dire sur quelle ligne politique il va continuer à avancer. Sauf que maintenant, ceux qui incarnent les idées neuves à droite ont quitté les Républicains. On voit bien dans le duel tel qu'il se... La bataille telle que se déroule pour la présidence des Républicains, il y a un candidat qui est candidat pour gérer la boutique, et deux autres...
À l'instant, l'AFP nous annonce à l'instant Christian Jacob, élu à 62,5% des premiers tours.
On le félicite pour sa victoire, et on l'encourage à poursuivre dans la voie de la rénovation de la droite française, parce que le débat politique a besoin d'une droite à peu près charpentée, ce qui n'a pas été le cas depuis la présidentielle, disons les choses...
Et dans quelques instants, nous serons au siège des Républicains avec notre correspondant, notre envoyé spécial sur place pour savoir si Christian Jacob peut être l'homme dû à rassemblement. Réponse dans les informés après la météo et le journal. Mais d'abord le trafic, Laurine Benjebria, c'est compliqué autour de Bordeaux.
Oui, vous êtes ralenti sur la 63 au sud depuis la jonction avec la 660 au niveau de Marcheprime, mais aussi sur la 62 à la suite d'un accident à hauteur de Saint-Médard-des-Rangs. Autre ralentissement à l'est de Paris, vous êtes ralenti sur la 3 de Gonesse à Rosny-sous-Bois jusqu'à Nogent-sur-Marne ensuite, notamment à cause d'un accident au niveau de l'échangeur avec la 86 intérieure. Vous avez aussi le pied sur le frein quasi à l'arrêt sur le périphérique intérieur et extérieur au niveau de la porte de Bagnolet. Prévoyez un bon quart d'heure de la porte de Bercy à la porte de Bagnolet, soit 10 minutes de plus que d'habitude.
Merci Laurine.
France Info Météo, avec Gauthier, fabricant français de meubles de rangement sur mesure, pour toutes les pièces de la maison, à retrouver en magasin et sur gauthier.fr.
Les prévisions météo sur France Info avec vous Jean-Michel Golinski.
Demain, dans un air partout très doux pour l'époque de l'année, le soleil va s'imposer de l'est du Rhône à la Bourgogne et de la Franche-Comté en allant vers la Lorraine et l'Alsace. Par contre, plus à l'ouest, les conditions seront moins favorables avec un régime d'averse s'installant l'après-midi du centre à l'ouest de l'Occitanie. Au nord de la Loire et dans le golfe du Lion, la journée globalement maussade sera suivie d'une ambiance plus ou moins orageuse. On notera le maintien d'un vent de mer très turbulent sur le Roussillon et dans l'axe du Rhône, et les rafales d'ouest atteindront 70 km à l'heure sur les côtes varoises, mais c'est surtout près de l'océan, en particulier du sud de la Garonne au nord de la Nouvelle-Aquitaine, que l'ambiance sera la plus tourmentée l'après-midi, avec le développement d'orages associés à de fortes averses, parfois de grêle et de brusques rafales.
Et 30 minutes sur France Info, toute l'information avec vous, Olivia Ferrandi.
Bonsoir. Le parti Les Républicains vient de se choisir un nouveau chef. Il s'agit de Christian Jacob, actuel chef de file des députés Les Républicains à l'Assemblée. Il obtient plus de 62% des suffrages. Christian Jacob sera chargé de remettre le parti en ordre de marche après la déroute cinglante des européennes. La liste LR avait recueilli moins de 8,5% des suffrages. Le parti Les Républicains compte aujourd'hui quasiment deux fois moins de militants qu'il y a deux ans. Le président français convoque ce soir à 22h, un conseil restreint de défense compte tenu de l'évolution de la situation au nord de la Syrie. Cinq jours après le début de l'offensive turque, les bombardements ont provoqué la fuite de plusieurs centaines de personnes qui vivaient dans un camp contrôlé par les forces kurdes. Parmi ces fugitifs, des femmes et des enfants de djihadistes, notamment une dizaine de Françaises que défend l'avocate Marie Dosé. Elle dit les avoir eues au téléphone aujourd'hui.
Dans ce camp d'Ain Issa, il y a une vingtaine d'enfants et une dizaine de femmes. Ce qui s'est passé ce matin, et je le sais puisque je suis en lien avec elles, c'est que les Kurdes tout d'un coup sont partis, elles ont entendu des tirs, et les Kurdes leur disaient « partez, partez, il faut fuir, courez, courez ». Donc elles ont couru, et elles se trouvent là, près du camp, complètement livrées à elles-mêmes, avec des enfants dont les deux tiers ont moins de 5 ans. Une femme qui a accouché cet été sous 50 degrés dans sa tente a donc un nouveau-né dans les bras, et elles ne savent absolument pas où elle est. Ce qu'elles veulent, elles, c'est atteindre la Turquie pour être expulsées vers la France, mais ce dont elles ont vraiment peur, c'est d'être récupérées par Daesh et ses cellules dormantes.
L'avocate Marie Dosé sur France Info ce soir. Damas annonce envoyer des troupes dans le nord de la Syrie pour contrer l'offensive turque. De leur côté, les États-Unis annoncent le rapatriement imminent de la quasi-totalité de leurs soldats sur place. La situation est devenue intenable pour les forces américaines, souligne le Pentagone. À noter qu'un convoi de civils et de journalistes a été pris pour cible lors d'un bombardement aujourd'hui. 14 personnes tuées, une vingtaine de blessés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Pas plus de précisions pour l'instant. Les législatives en Pologne, les bureaux de vote fermeront leurs portes dans une demi-heure maintenant. Le parti conservateur eurosceptique au pouvoir depuis 2015 est donné favori, mais il n'obtiendrait pas la majorité absolue malgré un programme de redistribution des richesses qui a permis ces dernières années la hausse du salaire minimum et la création d'une nouvelle allocation familiale. Retour en France avec un millier d'amis, d'éducateurs sportifs, d'enseignants qui sont venus aujourd'hui épauler la famille de Kevin lors d'une marche blanche en Seine-Saint-Denis. L'adolescent de 15 ans est mort le 4 octobre dernier devant le stade des Lilas, poignardé par 3 collégiens. Le syndicat enseignant, le SNES, demande du personnel supplémentaire dans les établissements scolaires pour éradiquer les guerres de quartier et les rixes entre bandes rivales. Le sport, la victoire du Stade français, 33-30 contre Toulon ce soir en top 14 de rugby. Dans le mondial de rugby, la France jouera son quart de finale contre le 15 du Poirot. Les Gallois se sont qualifiés aujourd'hui. France Info, 20h33, la suite des informés, Naila Latrousse.
Les informés, Naila Latrousse.
Avec toujours François Hermann-Wein, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix, Anne Bourse, journaliste au service politique de France Télé. À vos côtés, Alexia Germont, présidente du think tank France Audacieuse et du mouvement politique Nous Citoyens. Et Stéphanie Antoine, journaliste présentatrice à France 24, les news tous les soirs, du lundi au jeudi. Le week-end, la semaine de l'écho. Et un samedi sur deux.
Le monde dans tous ses états.
Voilà,
avec France Info et France 24.
Comme ça, on est exhaustif. Les Républicains viennent donc de se choisir un nouveau président. Ce sera Christian Jacob qui, jusqu'ici, présidait le groupe LR à l'Assemblée avec 62% des suffrages. Il est élu dès le premier tour. On va rejoindre Simon Le Baron au siège des Républicains. Simon, la surprise, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise.
Ben oui, c'est ça. On attendait peut-être effectivement une poussée des deux jeunes concurrents de Christian Jacob, Julien Aubert et Guillaume Larrivé, puisque depuis le début de cette campagne, Christian Jacob avait été désigné comme le candidat archi-favori, choisi par les cadres du parti, qui a même reçu au cours de la campagne il y a une semaine, dans la dernière ligne droite, le soutien de Nicolas Sarkozy. Mais le doute avait commencé à s'installer jusque chez les soutiens de Christian Jacob ces derniers jours, qui disaient attention, on n'est pas à l'abri d'une surprise, puisque Guillaume Larrivé et Julien Aubert ont fait une campagne très à droite, et c'est vrai que les militants des Républicains, ceux qui sont encore encartés aujourd'hui, se positionnent eux-mêmes très à droite, mais vous l'avez dit, ils ont tout de même choisi la continuité et le candidat rassurant, apaisant. C'est comme ça que Christian Jacob est présenté par tous ses soutiens. Président du groupe LR à l'Assemblée depuis 9 ans maintenant, il a 59 ans, il est un Chiracien historique, il n'a pas d'ambition personnelle, Christian Jacob. C'est donc le choix de l'apaisement qu'ont fait les militants, les Républicains ce soir, en choisissant dès le premier tour donc Christian Jacob avec plus de 62% des voix. C'est concurrent Julien Aubert obtient 21% donc pour Julien Aubert et 16% pour Guillaume Larrivé, ce qui veut dire tout de même que cette ligne de droite dure, de droite forte, appelez-la comme vous voulez, récolte 37% lors de ce premier tour. C'est une donnée que Christian Jacob devra prendre en compte dans la recomposition de la famille politique et dans la redéfinition de la ligne politique des Républicains à 5 mois maintenant des municipales. Et puis à noter aussi le chiffre de la participation dont se félicite ce soir le président par intérim du parti, Jean Leonetti, 62 000 votants, une participation de 47% sur 130 000 encartés au total. C'est mieux en proportion qu'il y a deux ans lorsque Laurent Wauquiez avait été élu, avec 42% de participation. Mais à l'époque, tout de même, le parti Les Républicains comptait 100 000 militants de plus qu'aujourd'hui.
Merci Simon Le Baron pour toutes ces précisions. Je me tourne vers Anne Bourse, journaliste au service politique de France Télévisions. On a entendu Christian Jacob, le candidat du Rassemblement, le candidat aussi le moins clivant face à deux quadragénaires très très à droite. Est-ce que c'est aussi le candidat des territoires avant les municipales ?
Oui, enfin, ce que disait Simon Le Baron, de toute façon, c'est vrai que c'est la candidature la plus consensuelle, la plus apaisante. Après, je suis pas du tout sûr que ça suffise justement à apaiser, parce qu'il y a quand même, on en revient à une question, quelle ligne et quel programme. Alors effectivement, sur les territoires, vous avez raison, hein, c'est l'ancrage dans les territoires et en région qui l'emporte. Il faudrait voir la carte du vote. D'ailleurs, ce serait peut-être assez intéressant de voir dans quel secteur, dans quel endroit le vote a été le plus important. Et puis, on le voit bien, enfin, quand même, dans le calendrier, là, on parlait tout à l'heure, par exemple, de Xavier Bertrand et on a entendu Jean-Pierre Raffarin. Enfin, le jour même du vote du président de LR, il y a quand même Jean-Pierre Raffarin. C'est pas une surprise, mais qui confirme qu'il quitte LR. Et Xavier Bertrand, qui mène une offensive en se posant comme opposant de la droite à Emmanuel Macron, le jour même de cette élection. Donc on voit bien, de toute façon, Christian Jacob a vraiment beaucoup, beaucoup de travail pour apaiser les tensions.
Et Xavier Bertrand qui a précisé, juste avant qu'on entre en studio, que son départ était définitif, qui dans le JDD, effectivement, donc dans le journal du dimanche, se pose en opposant à Emmanuel Macron, qui l'accuse de n'avoir pas pris la mesure de la guerre contre l'hydre islamiste, dit-il, une pleine page, et pas une fois, l'évocation du parti dont il fut secrétaire général, Alexia Germont. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il a acté la droitisation de son parti, qui ne se confirme pas non plus complètement dans les résultats de LR aujourd'hui, ou est-ce que ça veut dire que... qu'il se raccroche, qu'il ne laisse pas un centimètre de terrain à Valérie Pécresse, qui elle-même, dans le même journal, le journal du dimanche, fin septembre, parlait non pas d'islamisme, mais d'immigration.
Mais l'un n'est pas exclusif de l'autre.
C'est Emmanuel Macron, c'est Valérie Pécresse.
Mais l'un n'est pas exclusif de l'autre, parce qu'en politique, il faut cranter. Donc pour cranter, il faut aller étape par étape. Donc il faut se positionner par rapport à Emmanuel Macron, avec une offre politique qui soit différente. Autrement, quel sera l'intérêt d'une candidature? Et aussi en interne, avec les anciens LR, qui sont désormais libres de leur parole. Je voudrais quand même revenir sur l'importance de cette nouvelle cartographie qu'on est politique, qu'on est quand même en train de voir se dessiner sous nos yeux, parce que pour là, je rebondis sur ce que disait François Hennenwein, c'est très important pour la vitalité démocratique qu'on retrouve quand même aussi des partis traditionnels, que ça soit à droite comme à gauche d'ailleurs, qui aient quand même une colonne vertébrale, qu'on sache où ils veulent aller, et accessoirement au milieu de ce panel de grands partis, avec tous les actes 48, 49, bientôt 50 des Gilets jaunes, je pense que c'est très important aussi qu'on ait des mouvements citoyens actifs qui permettent d'encadrer la parole de la société civile.
François Hollande de la Croix, petite question justement. Christian Jacob, pour revenir à ce nouveau président des Républicains, il sera élu sur quoi? Sur sa capacité à réussir les municipales ou la présidentielle qui vient ensuite?
Il y a un aspect qui est intéressant. Il a été élu pour apaiser, d'ailleurs, c'était implicite dans son projet, et ça a été dit par Simon Le Baron tout à fait bien tout à l'heure. Mais je voudrais noter quand même au passage, sur la question de l'ambition, il a été élu aussi parce qu'il n'est pas candidat à la présidentielle. Et un mouvement politique qui se projette dans l'avenir en prenant soin d'installer à sa tête quelqu'un qui n'a pas une ambition politique démesurée par rapport à la norme dominante, c'est aussi un peu problématique sur la dynamique même. La question va se poser, mais on est sous la Ve République, la mère de toutes les élections, c'est la présidentielle. La question va se poser, dans quelles conditions la droite française fera émerger un candidat crédible pour s'opposer éventuellement à Emmanuel Macron s'il est candidat, ce qui sera vraisemblablement, etc., etc. Et cette question est assez centrale.
Et cette question sera débattue d'ailleurs sur le plateau des Informés. Je vous interromps, François Hennenwein, car Stephen Goyer nous a rejoint 20h40 sur France Info, le rappel de l'information.
Les Républicains tiennent. Leur nouveau chef, Christian Jacob, est élu avec 62,5% des voix devant Julien Aubert à 21% et Guillaume Larrivé avec un peu plus de 16% des suffrages exprimés. Annonce il y a quelques minutes de la haute autorité du parti. 47% de participation, soit environ 62 000 votants sur les 130 000 adhérents à jour de cotisation. Un conseil restreint à l'Élysée ce soir pour faire le point sur la situation syrienne et sur l'offensive turque menée contre les Kurdes dans le nord-est du pays. Un assaut qui risque de créer une situation situation humanitaire insoutenable et d'aider le groupe État islamique à réémerger. Déclaration tout à l'heure d'Emmanuel Macron à l'occasion de la réception de la chancelière allemande Angela Merkel. Sa remise à flot devrait être réalisée dans les prochains jours. Le cargo de 90 mètres de long échoué en pleine réserve naturelle de Bonifacio, avec à son bord 7 membres d'équipage et des bobines d'acier. Aucune pollution n'est constatée, mais nous avons par précaution déclenché des moyens de lutte anti-pollution, a tweeté la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne. Dernière minute de vote en Pologne, les bureaux sont ouverts jusqu'à 21h pour les élections législatives. Les ultra-conservateurs du PiS, le parti au pouvoir, partent grands favoris. Un record impressionnant, celui de la gymnaste américaine Simone Biles. Elle s'est offerte tout à l'heure sa 24e et 25e médaille mondiale, la 19e en or aujourd'hui à Stuttgart. Elle devient la gymnaste la plus médaillée de l'histoire et elle n'a que 22 ans.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Neila Latrousse.
Christian Jacob est le nouveau président des Républicains, élu avec 62,58% des voix dès le premier tour du scrutin. François Hernenwein de la Croix, il ne sera pas candidat, Christian Jacob, à la présidentielle. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une primaire ou qu'il y aura une multitude de candidats?
Écoutez, je pense que la question de la primaire est une question complexe. Évidemment, tous ceux qui souhaitent être candidats à la présidentielle rêvent de cette primaire. Mais on a vu, y compris pour la droite française, les effets délétères des primaires. Ça renforce les écuries présidentielles. De toute façon, les engagements pris aux primaires ne sont jamais tenus, ni à droite ni à gauche. Donc la primaire dont on a chanté les louanges avant la présidentielle de 2017 a fait que les deux principaux candidats au second tour n'étaient pas issus de primaires. Donc ça ouvre quelques doutes sur l'efficacité de la procédure. La question, elle est plus politique. Comment un mouvement politique comme les Républicains est capable de faire émerger en son sein un candidat crédible, porteur d'un programme défendable devant l'opinion publique? Cette question-là, c'est une tâche énorme à laquelle Christian Jacob va devoir s'atteler s'il ne veut pas que les satellites Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand occupent l'espace comme ils s'emploient à le faire en ce moment.
Anne Bourse, question et réponse rapide avant d'aller jeter un coup d'œil à l'international et aux frontières de l'Europe. Sur les Républicains précisément, ce risque d'être phagocyté de l'extérieur, il est réel? Les Républicains peuvent vraiment disparaître ou c'est un slogan que l'on répète pour galvaniser des militants?
Quand on voit tous les départs de militants, effectivement, il va falloir les galvaniser, les militants. Mais ils peuvent être phagocytés, oui, par l'extérieur. Enfin, on voit bien ce qui se passe avec Xavier Bertrand encore aujourd'hui. Il veut jouer sa carte, il l'a clairement dit, c'est les régionales de 2021. Et peut-être après, donc, candidat à la présidentielle. Et il joue aussi peut-être sans parti. Mais est-ce que finalement, les LR ne miseront pas sur quelqu'un de l'extérieur s'ils n'arrivent pas à faire émerger en interne un candidat qui porte leur projet et qui incarne leur projet et leur parti?
Un coup d'œil aux frontières, non pas de la France, mais de l'Europe. On va aller en Turquie. L'Élysée organise ce soir, au sujet de l'attaque turque dans le nord-est de la Syrie, un conseil restreint de défense pour suivre et aborder la situation. Paris, qui a d'ores et déjà annoncé suspendre ses ventes d'armes à Ankara.
Ce sont des sanctions très puissantes. Nous espérons ne pas avoir à les utiliser. Nous pouvons arrêter l'économie turque si nous en avons besoin.
La France et l'Allemagne ont annoncé la suspension des ventes d'armes à la Turquie, armes qui pourraient servir dans le conflit.
Et on vient d'entendre également un des porte-parole de la Maison-Blanche a annoncé de nouvelles sanctions américaines sur la Turquie. Stéphanie Antoine de France 24. Question toute simple, est-ce que l'Europe, est-ce que la France, est-ce que l'Allemagne ont les moyens de faire cesser l'offensive turque?
Ah, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que la France là, a suspendu ses armes. D'ailleurs, c'est pas l'exportation d'armes à la Turquie. Elle n'est pas la seule, puisqu'il y a les Pays-Bas également. Et l'Allemagne également. Ça fait trois pays qui ont suspendu cette exportation des armes à la Turquie. C'est une mesure assez forte, je dirais, dans l'affichage, mais très honnêtement, en termes d'impact, ça va être très faible, parce que d'abord, Erdogan a prévu, je dirais, une offensive extrêmement forte, et a priori, il a tout à fait les moyens militaires pour la mener à bien. Qu'est-ce qu'il veut, en fait, le président turc? Il veut créer une zone tampon de 30 kilomètres. Et il veut, dans cette zone tampon, en fait, une fois qu'il aura massacré les Kurdes, enfin, qu'il sera bien battu contre les Kurdes, y exfiltrer, en fait, une partie des réfugiés.
Les Kurdes qu'il ne tenait pas particulièrement en estime depuis de longs mois, de longues années.
Hein. Enfin, tout à fait. Il veut exfiltrer en fait une partie des réfugiés. Il y en a plus de 4 millions de réfugiés syriens. Donc en Turquie, les exfiltrer et les mettre dans cette zone pour en fait créer une sorte de zone arabe, alors que cette zone aujourd'hui donc était devenue kurde. Et il veut aller au bout de son projet. Et en plus, très clairement, il se redore une sorte de blason en interne, en Turquie, justement, en faisant ce type de conflit. Il est assez soutenu, finalement, par la population turque. Donc ça va être extrêmement compliqué de l'arrêter à ce stade. Là, on a vu Steven Mnuchin, justement, la Maison-Blanche, voir les contradictions de la politique américaine, qui sont absolument énormes, puisque Donald Trump a clairement donné son feu vert à l'intervention, sinon il n'y serait pas allé. Il a dit, on retire donc les boys, hein, on retire les Américains du front, les troupes américaines. Et puis derrière, volte-face, parce qu'effectivement, au Pentagone, eh bien, on ne souhaitait pas cette intervention militaire. Donc, tout d'un coup, retournement de situation, les Américains se disent, on va mettre en place des sanctions économiques contre la Turquie pour affaiblir la Turquie. Sauf que, je dirais, c'est trop tard. C'est-à-dire que là, ça y est, les Turcs sont sur le front, et ils ne vont pas s'arrêter là, et c'est pas parce qu'on va suspendre tout d'un coup les armes, l'exportation d'armes aux Turcs, que ça va s'arrêter là. Hein,
ça a l'air loin, vu de Paris, vu de la France, cette frontière turco-syrienne, mais le gouvernement s'inquiète de potentiels conséquences, y compris sur le sol français.
Oui, les ministres l'ont même dit aujourd'hui, hein, du retour notamment des femmes et des enfants de combattants, par exemple, de l'État islamique qui pourrait revenir. Se pose aussi avec cette intervention la question du jugement des prisonniers qui étaient là-bas français. La France a toujours dit, le gouvernement a toujours dit, nous, on veut qu'ils soient jugés là-bas pour ce qu'ils ont fait. Or, aujourd'hui,
ça pourrait changer avec le...
Ah bah, la France ne souhaite pas changer de position. Enfin, la question se repose. On a entendu Marc Trévidic aujourd'hui revenir sur ce sujet en disant il faudrait les juger en France, ces combattants français.
Ouais, Alexia Germont, il faudra les juger en France, ces combattants, dans le contexte actuel d'un embrasement régional potentiel.
Ben, c'est un embrasement régional potentiel. C'est surtout un risque...
Parce que la Syrie envoie des troupes aussi. Hein,
oui, bien sûr. Pris ce soir. Et donc là, on voit bien qu'on paye la lâcheté par le passé, que ça soit sur le tribunal pénal international qu'on voulait mettre sur place, qu'on n'a pas été capable de mettre en place. Et je vois aujourd'hui, vous connaissez mon prisme européen particulièrement affiché, je pense là que la réunion à venir lundi et mardi des ministres des Affaires étrangères et des ministres des Affaires de la Défense, au niveau européen, c'est très important. Là, l'Union européenne a vraiment un rôle très pragmatique à jouer, pour une raison simple. On parlait du retour des 2000 boys, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on envoyait une force d'interposition, hein, c'est pas pour aller faire la guerre là-bas, mais si déjà l'Europe était capable d'envoyer, de remplacer les 2000 boys américains par des contingents de différents pays européens, ça pourrait, pour le coup, c'est plus efficace que le gel immédiat des exportations d'armes.
Effectivement circonscrire la situation humanitaire, parce qu'on va être face à une catastrophe humanitaire. Il y a déjà 100 000 déplacés sur place.
François Nonnevein, l'Europe doit, si je comprends ce que dit Alexia Germont, prendre ses responsabilités.
Mais moi, je suis très favorable au raisonnement qui vient d'être fait. Je constate que l'Europe devrait avoir les moyens de limiter la casse, disons les choses clairement. Mais derrière tout ça, il y a quand même une forme formidable de cynisme et... La volte-face de Donald Trump en témoigne formidablement. Finalement, la question qu'on peut se poser là, c'est est-ce que on arrivera à se bouger et à agir une fois qu'Erdogan aura fini de conduire son projet. C'est-à-dire, il fallait être beaucoup plus vigilant dans les relations avec Erdogan bien avant les faits qui viennent de se produire.
Et la question est abordée, sera abordée, continuera à être abordée sur France Info. Il est 20h50. Le rappel de l'information avec Steven Goyer.
L'armée syrienne mobilisée contre l'offensive turque. D'après un média d'État syrien, des troupes vont être envoyées au nord du pays pour faire face à l'assaut lancé depuis mercredi par Ankara contre les Kurdes syriens. En France, un conseil de défense restreint est organisé à 22h pour faire le point sur la situation. L'attaque turque risque de créer une situation humanitaire insoutenable et d'aider le groupe État islamique à réémerger. La déclaration tout à l'heure du président de la République, Emmanuel Macron. Christian Jacob, nouveau patron du parti Les Républicains, annonce il y a quelques minutes de la haute autorité du parti.
parti, l'ancien président du groupe à l'Assemblée est élu avec 62,58% des voix devant Julien Aubert et Guillaume Larrivé. 47% des adhérents, environ 62 000 personnes, se sont exprimées. J'aurais aimé que ce soit Xavier Dupont de Ligonnès. Réaction sur France Info de Stéphane Goldenstein, l'avocat de la mère et de la sœur du principal suspect du quintuple meurtre de Nantes en 2011. Hier, le test ADN effectué sur l'homme interpellé en Écosse s'est révélé négatif. Xavier Dupont de Ligonnès reste donc en fuite plus de 8 ans après sa disparition. On ne s'habitue pas à ce genre de douleur, a poursuivi l'avocat. Le Stade français s'offre une victoire de rang en top 14. Les Parisiens se sont défaits de Toulon tout à l'heure 33-10. Début en ce moment du match de clôture de cette 7e journée entre l'Union Bordeaux-Bègles et Clermont. Et puis nouvelle sueur froide pour le PSG avec la blessure de Neymar. Le Brésilien jouait aujourd'hui avec sa sélection en match amical contre le Nigeria. Il est sorti dans les premières minutes du match après une douleur à la cuisse gauche.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Neil Alatrousse.
La Tunisie aura un nouveau président ce soir. Les premiers sondages sortis des urnes d'instituts tunisiens, pour le coup, donnent Kais Saied en tête avec plus de 70% des voix tout au long de la journée. Un peu plus de 7 millions de Tunisiens étaient appelés à départager ce monsieur, un homme de droit contesté d'un autre homme d'affaires, lui sulfureux. Les bureaux de vote ont fermé à 18h, 58% de participation et des électeurs tout à l'heure heureux en sortant des bureaux de vote. Écoutez.
C'est seulement la deuxième élection présidentielle depuis la révolution de 2011.
Avant, venir ou ne pas venir, c'était la même chose. Maintenant, au moins, quand tu viens, tu sais que tu vas contribuer à quelque chose.
Je n'ai manqué aucun vote depuis qu'on a eu les élections et je le ferai, j'espère, toujours parce que c'est une fierté, parce que certains pays n'ont pas encore cette chance, n'ont pas encore ce droit.
Au-delà de la personnalité du candidat ou du président qui sera confirmé ce soir, François Hernenwein, est-ce que c'est déjà un test réussi pour la Tunisie, élection qui s'est déroulée dans des conditions très particulières,
oui,
avec la mort d'un président?
Et d'ailleurs, ça avait frappé tout le monde. Le débat télévisé avait été conduit de manière apaisée, alors que les candidats incarnaient des stratégies et des visions finalement assez opposées. Moi, je considère, l'avenir nous dira, mais je considère que cette élection pose le socle d'un début de stabilité dans un pays qui a vécu une révolution spectaculaire, une situation politique confuse pendant des années, et que là, c'est le socle pour construire quelque chose. Comparaison n'est pas raison, mais c'est comme les Républicains. Là, il y a quelque chose qui se met en place et on va pouvoir avancer.
Stéphanie Antoine, donc les sondages et les médias tunisiens donnent Kais Saied, a priori, nouveau président de la République. On en a peu parlé, on le connaît peu en France, il fait assez peu de médias en réalité. Qui est-il?
Alors c'est un professeur de droit constitutionnel, Kais Saied, et en fait d'ailleurs ses étudiants l'ont beaucoup aidé, le soutiennent dans cette campagne. Il n'a pas du tout fait campagne dans les médias, il s'est contenté en fait d'aller dans les campagnes, et au final c'était très payant pour lui, parce qu'il est allé dans les campagnes. C'est un constitutionnaliste très conservateur, il est contre la peine de mort, il est favorable à la peine de mort, il est également favorable à l'inégalité devant l'héritage par exemple, hein, il est contre l'égalité entre les hommes et les femmes devant l'héritage, donc très conservateur. Et effectivement, il n'a pas du tout utilisé les médias, contrairement donc à son challenger, Nabil Karoui, qui lui est propriétaire d'une télévision, une télévision qui a une très forte audience en Tunisie et qu'il a vraiment utilisé pour faire campagne. Donc on a vraiment deux candidats totalement atypiques, parce qu'en plus, qui ne venaient pas vraiment du sérail politique d'après la Révolution. Les candidats qui, en fait, faisaient partie des gouvernements précédents, donc post-Révolution, post-2011, en fait, eux ont été laminés dans les résultats parce qu'il y a une désaffection, finalement, des Tunisiens pour ce qu'ils ont incarné et finalement pour le fait qu'ils n'aient pas véritablement mis en place de politique économique. Enfin, en tout cas, ils étaient clairement plus crédibles aux yeux de l'opinion tunisienne. Là où je rejoins, je pense qu'effectivement, c'est une vraie étape pour la Tunisie que cette élection, le fait qu'elle soit organisée tout de même dans le calme. Manifestement, le taux de participation est même plutôt supérieur à ce qu'on pensait. En revanche, la Tunisie risque d'être frappée, enfin d'être face en tout cas à une crise politique majeure, parce qu'il y a eu des élections législatives cette semaine qui font qu'il y a un émiettement des partis au sein de l'Assemblée extrêmement fort, donc ils ne peuvent absolument pas constituer une majorité pour justement qu'il en ressorte un gouvernement qui tienne. Pour l'instant, vous avez le parti islamiste Ennahda en tête, mais il a perdu 20 sièges. Vous avez juste derrière le parti justement de Nabil Karoui qui est aussi pas, enfin, qui ne peut pas constituer une majorité non plus. Donc comment vont-ils être en mesure de créer une sorte de coalition pour qu'un gouvernement puisse ressortir. Et dernière chose, crise constitutionnelle, il y aura peut-être une crise politique parce que les partisans de Nabil Karoui ont dit que s'il perdait, et a priori, bon, d'après les estimations, c'est plutôt Kais Saied qui l'emporte, eh bien, ils peuvent exercer un recours pour annuler cette élection en disant qu'il n'y avait pas le principe d'égalité pendant la campagne, puisque lui a été en prison, il a été relâché littéralement deux jours avant le scrutin. Donc ça, c'est compliqué. Une crise politique, une crise politique majeure peut en tout cas intervenir en Tunisie.
Il nous reste une minute, Alexia Germont et Anne Bourse. Est-ce que la France a regardé ces élections avec intérêt? On avait le sentiment qu'il y avait ce côté ça nous intéresse, c'est nos voisins, mais pas d'ingérence dans le même temps.
Oui, c'est la ligne de crête toujours à avoir, sachant que oui, c'est très important pour nous parce que c'est aussi un rempart dans la lutte contre le terrorisme. Il faut aussi le rappeler. La stabilité de la Tunisie, c'est très important pour ce qui se passe à l'intérieur de nos frontières. Et donc, de ce point de vue-là, c'est normal que la France ait regardé, sans vouloir faire d'ingérence, mais regardé ces élections présidentielles.
Le mot de la fin pour Anne Bourse, journaliste politique de France Télévisions.
Non, mais effectivement, enfin, la France suit de très près, mais au regard de l'histoire, on ne va pas faire d'ingérence et ne s'est surtout pas prononcé pour qui que ce soit. Et on aura un communiqué prenant acte, en tous les cas, de l'élection. Mais en tous les cas, effectivement, ce pays a démontré qu'il réussissait pour l'instant sa transition vers une démocratie.
Voilà, ce sera le mot de la fin. Dan Bourse, la Tunisie, on continue d'en parler sur France Info, Radio et Télé, Canal 27 de la TNT, 20h57. Merci à nos invités. Je rappelle que c'est le week-end du Pasteur Don, le 36-20, pour faire un don et pour faire avancer la recherche. Merci à François Ernenwein, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix. Votre une demain porte sur l'Irak.
Elle est consacrée à la jeunesse d'Irak qui protège contre à la fois la corruption et la pauvreté. Et c'est un élan assez fort qui s'est traduit par des manifestations assez spectaculaires dans le pays.
Merci François, merci aussi à Anne Bourse, journaliste au service politique de France Télévisions, Alexia Germont, présidente du think tank France Audacieuse et du mouvement politique Nous Citoyens, Stéphanie Antoine, journaliste présentatrice à France 24. Je ne vais pas citer toutes les émissions,
merci à vous en tout cas.
Demain à cette même place, Jean-François Aquili, bonne soirée sur France Info.